1, 2, 3, 4, 5, 6.
Salut, c'est Yann avec vous pour l'émission Le Grand Tout. Vous écoutez Calamé, une nouvelle semaine qui se terminera par un petit voyage au Jardin Moderne vendredi, puisque nous serons en direct de 17h à 18h du Pipe à la Pop numéro 5 avec les amis Isa et Marc d'Alter Info. Pierre Mel sera la technique, donc je vous donne déjà ce programme là, mais à part ça, des émissions conventionnelles cette semaine. Celle d'aujourd'hui vous permettra justement de retrouver en partie info concert tout à l'heure la discussion qu'on avait pu avoir avec Laura et Baptiste de l'Assaut des Pichicas qui organisent ce même festival. On écoutera une partie de la programmation, celle du vendredi 12 juin, et puis je vous donnerai aussi le planning des diffusions des siestes musicales réalisées par les artistes invités par des Pichicas. Pour la partie culture tout à l'heure, c'est Isa qui nous rend visite pour nous parler de ce spectacle à la ligne qu'elle a vu à la Paillette le 28 avril dernier. Elle a pu y rencontrer Mathieu Létuvé de Caliban Théâtre et il parlera de son adaptation du roman de Joseph Pontus. Quelques nouveautés, deux seulement, une que vous avez peut-être déjà entendue, une reprise de Wolfgang Amadeus Mozart, et puis pour commencer, le musicien Ray Borneo, que l'on connaît pour être le boss du label Petrol Chips. Je ne saurais nommer tous les projets musicaux auxquels il a participé, de Gontard à Tara King TH, en passant par Vestal, et puis aussi Zelle. Bon, il y en a des tonnes. Là, il s'intéresse à la musique électronique sur ce nouvel enregistrement. Il s'appelle Glitters and Beats et il s'est essayé en 7 pièces électroniques à mélanger la disco, les pionniers de la musique électronique. On peut penser à Raymond Scott, on peut penser aussi un peu à Kraftwerk sur certains morceaux. C'est très réussi. Je vous propose un des 7 titres qui figure sur ce Glitters and Beats qui sort ce vendredi sur le label Petrol Chips. On écoute le titre Peculiar Armada. Bonne émission.
Thank you.
Peut-être avez-vous reconnu à l'instant un fragment du Requiem de Mozart, bien transformé de manière électronique par Frédéric Landier, alias Robin Steiner. C'était un enregistrement live donné à l'église Saint-Eustache à Paris en 2017. Et ça figure, cette relecture, sur le dernier album en date de Robin Steiner, toujours bien inspiré entre exotica, musique électronique et puis jazz. Ça figure sur l'album What Would Brian Eno Have Done, sorti le 18 avril dernier. À suivre la page culture du Grand Tout. C'est avec une tristesse non dissimulée, hein, je pleure à grosses gouttes, bon pas vraiment mais quand même, ça fait quelque chose de se dire, c'est la dernière chronique pour la saison d'Isabelle. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Qui nous a parlé théâtre, peut-être un peu moins cette année que les saisons précédentes, mais on espère que ça continuera. Et là tu nous proposes eh bien, ce qui était carrément l'un des derniers spectacles de la saison, c'était à la Paillette que tu as pu voir il y a quelques semaines à la ligne, et tu as pu rencontrer Mathieu Létuvé de Caliban Théâtre.
Et oui, il proposait une adaptation de « À la ligne, feuillet d'usine », qui est un récit de Joseph Pontus, paru en 2019. Alors ce texte est autobiographique, Pontus y raconte son parcours d'intérimaire dans des usines d'agroalimentaire du côté de Lorient, où avec sa compagne il s'est installé. Avant ils habitaient dans l'est de la France, Pontus a fait des études littéraires, est devenu éducateur spécialisé et a tout plaqué. Après un temps de chômage, il faut bien gagner l'argent pour vivre, d'où l'inscription en agence d'intérim. L'émission arrive et s'enchaîne très vite. Pontus ira à l'usine de crevettes, de tofu, de poissons, à l'abattoir. Premier contact avec le monde de l'usine qu'il va raconter dans « À la ligne, feuillet d'usine ». L'unique roman, puisque c'est ainsi qu'il est publié, hein, sous le titre de roman et non autobiographie. Donc l'unique roman de Pontus qui est mort en 2021. Et pour lui, il y a une nécessité à écrire cette expérience. Il dit par exemple, au fil des heures et des jours, le besoin d'écrire s'incruste, tenace comme une arête dans la gorge, non le glauque de l'usine, mais sa paradoxale beauté. À la ligne, c'est la ligne de production, la chaîne de l'usine, mais c'est aussi l'écriture. Pas de ponctuation dans ce texte. Pontus écrit une immense phrase qui ne s'arrête qu'avec son dernier mot et qui reprend son souffle en allant à la ligne. Alors il raconte ses missions, sa découverte d'un monde, de lieux inconnus, de gestes jamais effectués avant, tirer, tracter, trier, porter, soulever, peser, ranger. Il raconte le froid, le cauchemar des néons, des heures décalées quand tu embauches et que le reste du monde s'endort. Il raconte les pauses, les collègues, les chefs. Et aussi cette fierté d'aller à l'usine, ce sentiment d'appartenance. Et ce récit est traversé de références littéraires à Apollinaire, Sandrars, mais aussi de culture populaire, de Trénet à Dutronc en passant par Brel. Quand j'ai rencontré Mathieu Létuvé à l'issue du spectacle, il m'a dit qu'il y avait comme une évidence à porter au plateau l'œuvre de Pontus. On l'écoute tout de suite.
Le texte, je trouve que ce qui est très fort, c'est qu'il décrit la vie des ouvriers de l'intérieur de l'usine vraiment telle qu'on on ne la connaît pas, mais lui en plus avec son bagage de lettré, de littéraire, il en fait une épopée. Et en fait c'est ça le déclencheur, moi, où je me suis dit ben on peut en faire aussi une épopée au plateau.
Mathieu Létuvé met en scène et interprète, mais ils sont deux sur scène. Olivier Antoncic met en musique le spectacle, une musique live électro qui dialogue tout au long du spectacle avec le texte. Et puis, David Gauchard, de la compagnie rennaise L'Unijambiste, a collaboré à la mise en scène. Mathieu Létuvé nous parle de ce travail sur le texte.
C'est un roman en particulier, puisque ça s'appelle « À la ligne », puisqu'il n'y a pas de ponctuation. Donc c'est écrit comme un long poème. Mais l'enjeu de l'adaptation, justement, au plateau, c'est de trouver le chemin dramaturgique. Et donc, on est obligé de faire des choix. Et là, c'était vraiment, pour moi, il y avait une évidence, parce que c'est une épopée, mais c'est aussi un parcours initiatique. Donc c'était que toutes les étapes claires de son chemin initiatique, comme ça, à la fois intérieur, mental, physique, voilà, qu'on ait toutes les étapes clés comme ça, et qu'on soit vraiment avec lui dans cette plongée, quoi. Alors, et l'autre élément que je trouvais très fort dans le texte, c'est qu'on a une espèce de plongée quand même. Ça m'a fait penser à la Divine Comédie de Dante. Au début, bon, on a un peu les premiers cercles avec les bulots, les crustacés, c'est encore, ça va, c'est encore plutôt léger. Et après, on arrive aux abattoirs, et là, c'est voilà, c'est le front, c'est plus la boucherie, c'est l'enfer. Voilà, bon. Donc, il y avait une plongée comme ça, qui est de plus en plus dure, et il témoigne de tout ça et de ce que vivent les ouvriers et les ouvrières dans ces abattoirs. Mais en même temps, pour lui, c'est une ascension. En tant qu'écrivain, puisqu'il va accoucher de ce livre qui va le révéler en tant qu'écrivain. Et donc c'est son acte de naissance en même temps, en tant qu'auteur. Donc c'est ce double mouvement-là que j'ai trouvé assez fascinant.
Je vais maintenant parler vraiment du spectacle et non plus simplement du texte de Pontus. Alors on commence par le décor. Au fond, il y a la table de mixage avec Olivier et ses machines. Le spectacle commence d'ailleurs par un long morceau électro qui nous fait pénétrer dans l'univers d'À la ligne. Un univers froid, de néon, de lumière blanche. Le mobilier est noir. C'est un décor modulable en trois espaces. À gauche, une chaise éclairée d'une lumière chaude, jaune, plus chaude bien sûr que les néons. Elle symbolise la maison. Le narrateur s'y assoit et raconte les temps hors de l'usine, ce qu'il reste quand on rentre fatigué, cassé. À droite de la scène, un banc surmonté d'un éclairage au néon. Ce sont les vestiaires, lieu de passage, de pause rapide avant d'y retourner. Et puis au centre du plateau, quatre tables sur roulettes. Alors il faut imaginer des structures métalliques, des paillasses d'une salle de sciences par exemple, dans un collège ou un lycée. Et au lieu du plateau, sur ces tables, on trouve des néons, des luminaires qui sont eux aussi dans tous les lieux de collectivité. Et ces néons s'allument, s'éteignent ensemble, en alternance, lancent une lumière clinique, parfois agressive, aux effets stroboscopiques. Et donc, les tables, le narrateur les manipule à vue et elles renvoient aux chaînes de l'usine, aux murs de l'abattoir, etc. C'est un travail magnifique autour de la lumière et de la mobilité de l'espace dans ce spectacle qui fait du lieu, donc l'usine, le second personnage de ce monologue. Et puis bien sûr, il y a la musique d'Olivier Antoncic. On écoute Mathieu Létuvé.
Moi, je conçois, en fait, j'ai une culture très cinématographique à la base, littéraire aussi, mais voilà. Donc tous les deux, on est beaucoup là-dedans, dans le cinéma, dans les séries et tout ça. Et donc moi, je construis toujours les spectacles comme des scénarios de films. Et d'ailleurs, le spectacle, il démarre, il y a une espèce de générique. Au début, il y a une musique, voilà. Donc on construit comme ça, avec des intentions de dramaturgique, de montée, de rythme. C'est surtout le rythme, nous, qui prime à chaque fois, c'est comment ça respire et comment ça monte et comment ça, en fonction toujours par rapport au texte. C'est le texte qui nous guide et la lumière, le travail sur la lumière, il se fait de la même manière. Et Olivier, donc lui à la base, il est professeur de MAO, de musique électronique, voilà. Et donc il a vraiment quelque chose d'assez savant par rapport à la musique de plateau, parce que c'est pas être musicien et faire de la musique, c'est une chose, mais accompagner un travail au plateau, il a vraiment cette science-là maintenant d'accompagner les émotions et de voilà. Donc avec lui, ça se fait très naturellement. On échange quasiment pas, en fait, on se comprend tout de suite. Donc c'est assez fort, quoi, de travailler dans ce sens-là. Ouais.
What you got going on? High nose, eyes closed, holding on. And I don't want another day to break. Mm-hmm. take on, steal on, night away. Warm shadow. Shadow, won't you cast yourself on me? Mm-hmm. What you got in store for me? Keep those eyes closed next to me. And I don't want another day to break. Mm-hmm. Take all, steal all, night away. Shadow. Warm shadow. Won't you kiss yourself on me?
Vous entendiez à l'instant un extrait d'un titre du musicien Fink, Warm Shadow, musique qui coûte beaucoup. Mathieu Létuvet, avant de jouer le spectacle à la ligne dont tu nous parles aujourd'hui, Isabelle.
Oui, et on revient maintenant au narrateur qui est donc interprété par Mathieu Létuvet. S'il n'est pas complètement seul, il porte quand même la parole et je dois dire que son jeu est impressionnant. Tout d'abord le corps. Le comédien est habillé tout en noir, bonnet, gilet, t-shirt, pantalon, chaussures, dans cet univers de lumière blanche. Il occupe le plateau en passant d'un espace à l'autre et au début, le narrateur d'À la ligne est presque fringant, sautillant. Il y a un enthousiasme à aller au boulot. Petit à petit, le corps se rétracte, se plie, se tord en fonction de la fatigue, des blessures et du froid. Et puis surtout, il y a les gestes reproduits toute la journée à la chaîne, trier, porter, avancer. On a l'impression de voir une sorte de chorégraphie, des gestes qui deviennent abstraits comme un pas de danse. Et d'ailleurs, Pontus parle énormément des musiques qu'il a dans la tête en travaillant. Alors je ne dis pas qu'il danse, enfin que Mathieu Létuvet incarnant Pontus danse, mais il y a un effet de répétition qui fait penser à une chorégraphie contemporaine. L'abstraction du geste devient une danse. J'ai évoqué cette présence du corps avec Mathieu Létuvet, on l'écoute.
Alors ça c'est marrant parce que c'est venu tout seul, j'ai pas du tout travaillé avec personne là-dessus et c'est vrai que ça a beaucoup étonné notamment les programmateurs en Normandie parce qu'on a créé, qui en fait m'avaient jamais vu jouer comme ça et sur d'autres spectacles où je travaille avec un danseur hip-hop sur le raging et, ou sur d'autres spectacles et comme il y a des danseurs, moi je restais assez statique. Et comme là, je suis tout seul, je me suis un peu libéré. Et c'est venu tout seul. Et en fait, ce qui est troublant, encore hier, il y avait quelqu'un qui avait travaillé en usine pendant 14 ans et qui était très bouleversé par tout ça. Tout lui est revenu. Et c'est comment les gens se retrouvent, et surtout les ouvrières et les ouvriers qui ont vu le spectacle, parce qu'on a joué pas mal en Bretagne. Et ils se retrouvent tous là-dedans, alors que j'ai jamais mis les pieds dans une usine et que, au niveau du corps, j'ai pas travaillé ça de manière volontairement chorégraphique. Mais c'est venu naturellement. Et en fait, je me suis dit, c'est un peu la manière dont on travaille à chaque fois, c'est comment ça me traverse moi aussi. Parce que c'est ça que ça raconte Pontus, c'est comment ça le traverse sur le plan des émotions, sur le plan du corps, etc. Et donc, c'était à moi aussi de revivre ça, mais au plateau. Et effectivement, ça devient par moment quelque chose d'assez chorégraphique et stylisé. Mais ce qui est étonnant, c'est que les ouvrières et les ouvriers se retrouvent complètement dans les gestes. Alors que j'ai pas du tout mimé des gestes mécaniques. Mais en tout cas, le corps est au centre du travail.
Autre élément qui m'a fortement marqué lors de la représentation, c'est le débit, le phrasé. On pourrait dire le flow du comédien. Je l'ai dit, le texte de Pontus est sans ponctuation, il va à la ligne, fait des paragraphes plus ou moins longs, mais le texte se déroule en un seul long ruban. Le lecteur est happé par cette phrase et pour le spectacle, la mise en voix, l'interprétation de Mathieu Létuvé nous ont emportés aussi. Il y a une musicalité, un rythme très particulier qui nous embarque très fort. J'ai posé la question de ce flow à Mathieu Létuvé, voici ce qu'il nous en dit.
Toute la démarche de Pontus, c'est de mettre l'écriture, les lettres, le texte au cœur de la vie, de l'aventure humaine. Et donc on retrouve ça quand il rentre à l'usine, il se dit « moi, je peux peut-être essayer de mettre des mots là-dessus », alors que tous les gens qui sont autour de lui n'ont pas cette capacité-là. Effectivement, il trouve ce style qui colle très bien par rapport à ce qu'il décrit. Et en fait, moi, le travail, le livre, il est quand même assez littéraire. C'est de la poésie quand même. C'est très bien écrit. Il y a beaucoup de références. Et j'ai travaillé avec David Gauchard, qui est un metteur en scène d'ici, qui a sa compagnie implantée à Rennes, c'est l'Unis Jambis Compagnie. Et moi, j'étais trop respectueux du texte, même dans la diction. Et lui, c'est vrai qu'il m'a encouragé à le bousculer, à le bouffer, à le rendre beaucoup plus impactant. Et c'est ce qui fait la force, je pense, de l'adaptation au plateau. C'est qu'à la fois, on garde la poésie du texte, mais en même temps, on a quelque chose de très incarné. Et le flow, bon, ça, sûrement que je l'ai aussi, parce que, on avait créé un autre spectacle, Raging Bull, où c'était, voilà, il y avait un flow un peu comme ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai depuis un certain temps. C'est lié aussi à la manière dont on travaille les textes, avec le musicien Olivier Antoncic, c'est très lié à la musique, voilà, et à la manière dont on compose les spectacles. Et là, comme l'idée, c'est qu'on respire pas. Une fois qu'on est rentré avec lui là-dedans, ça respire pas. Et il n'y a pas de ponctuation, donc ça s'arrête pas.
Pour finir, j'ai envie de parler de tout ce qui se dégage de ce spectacle. Évidemment, on est parcouru par un tas d'émotions. Le complément du titre « Feuillet d'usine » me fait toujours penser au titre du recueil « Feuillet d'hypnose » de René Char, où il raconte la Deuxième Guerre mondiale et sa participation à la Résistance. Et je crois qu'on peut y voir un lien, même lointain. Joseph Pontus ne nous parle évidemment pas de guerre ni de résistance, mais peut-être quand même bien d'un combat. Et puis Mathieu Létuvé faisait référence à cette idée d'épopée, l'épopée du travailleur à l'usine. Le combat de Joseph Pontus, c'est celui du travailleur à l'usine d'agroalimentaire, où on le voit se débattre avec le tuyau de nettoyage de l'abattoir, avec les tripes, etc. Et c'est extrêmement violent, en fait. Et puis, le spectateur, en tout cas moi je l'ai été, est tendu par l'émotion devant ce récit. Le récit de la souffrance physique, de la souffrance morale liée au travail, le récit de la fatigue qui grignote ta vie et tes rêves. On ne peut pas rester insensible et forcément, ça palpite du côté de la salle. Et puis, il y a la colère face aux conditions de travail, le froid, la lumière aveuglante, les petits chefs, les gestes répétés. Et puis aussi, on rit. Parce que Pontus a un regard plein d'humour sur le monde de l'usine. Et on va d'ailleurs finir avec la voix de Mathieu Létuvé qui nous parle du rire très fort pendant le spectacle.
Pontus, ce qui le sauve, c'est à la fois le fait, c'est ce qu'il dit, le fait, lui, d'avoir ce bagage littéraire de lettré et tout ça, et le fait de pouvoir écrire là-dessus, mais en même temps, c'est l'humour. Et donc, là, au plus noir du truc, et même par rapport à ses collègues qui... Certains peuvent être horribles, mais lui, quelque part, ça continue. À chaque fois, il a toujours un sourire ou ça continue de l'amuser quelque part. Il a toujours un humour salvateur, quoi. Et il y a des salles où hier c'était assez tranquille, mais il y a des salles où ça rigole encore plus. Et moi, ça m'avait frappé. Et sa femme est venue voir le spectacle à l'Andivisio. Elle me racontait d'ailleurs que voilà, quand il rentrait, il lui racontait des trucs et ils rigolaient beaucoup tous les deux. Donc je pense qu'il avait vraiment ça, Pontus. Après, c'est un livre, c'est aussi toujours la façon dont on le découvre, à quel moment, etc. Mais je pense que l'humour, c'est très présent chez lui. Mais il y a cet humour, mais en même temps, voilà, ce que j'aime toujours dans les spectacles, c'est quand on a un peu toutes les composantes, avec ce spectacle, on passe par toutes les étapes sur le plan des émotions. Shadow.
On va terminer cette chronique dans laquelle Isabelle nous parlait de À la ligne, que tu as pu voir à la paillette, joué par Mathieu Létuvé. On entendait encore une fois un peu de ce morceau de Fink qu'il écoute avant de monter en scène. On termine avec un agenda, court agenda, mais avec de belles choses à vous annoncer quand même.
Oui, alors la première idée, c'est quand même de lire À la ligne si vous n'avez jamais découvert ce texte. Hein, À la ligne, feuillet d'usine de Joseph Pontus. C'est paru dans la collection Poche Folio. Ensuite, jusqu'à la fin du mois de juin, jusqu'au 23 juin précisément, il y a Les Envolées, c'est le festival des créations amateurs de la paillette. On y retrouve bien sûr du théâtre, mais aussi de la danse, de la musique, des arts plastiques, qui convoquent tous les ateliers amateurs de la paillette. Et puis bientôt, du 30 juin au 5 juillet, ce sont les Tombées de la Nuit. Et je vous conseille un spectacle absolument génial que j'avais vu il y a quelques années au festival de Aidé, au festival Bonus. Ce sont les Gros patinent bien de Pierre Guillois et d'Olivier Martin Salvant. Si vous avez l'occasion, ne manquez pas ce spectacle.
Un spectacle totalement cartoonesque, un tour de force de la part des deux comédiens en scène et qu'on peut aller voir même si, alors si on ne sait pas lire le français, c'est un peu compliqué, mais on comprendra quand même. Oui.
Oui,
allez voir ça et puis allez voir sur le site des Tombées de la Nuit tout ce qui vous attend bientôt du 30 juin au 5 juillet, notamment le retour de Sébastien Barrier, mais pas dans son personnage de Ronan Tablantec. On verra bien ce que ça donnera. Merci Isabelle, on se retrouve j'espère très bientôt
bien
à la rentrée pour de nouvelles interventions autour du théâtre. Vous avez un peu la fin de ce morceau de Fink pour terminer cette chronique. À bientôt, merci.
À bientôt.
La session info-concert de l'émission Le Grand Tout que vous écoutez en ce moment sur Canal B aujourd'hui, eh bien, c'est une rediffusion de la première partie, la discussion qu'on avait pu avoir avec Laura et puis Baptiste de l'association Dépichikai, qui nous présentait en avant-première en mars dernier la programmation du festival Pipa la Pop numéro 5 qui se déroule ce week-end, vendredi et samedi soir du côté du Jardin Moderne. On reçoit deux des membres de l'asso Dépichikai, Laura et Baptiste. Bonjour à vous deux.
Salut.
Dépichikai, on ne présente plus vraiment cette association qui présente, elle, des concerts très, très, très régulièrement à Rennes, un peu partout, dans des ambiances indées. Est-ce que ça vous va si on dit indé en général ?
Oui, plutôt, oui, ouais. Oui, ça va, oui, plutôt de la musique que l'on aime, quoi.
Le festival installe son campement pendant deux jours, les 12 et 13 juin, pour une cinquième édition au Jardin Moderne. Avant de plonger dans cette programmation, j'aimerais bien prendre un petit peu des nouvelles de Pichikai, comment ça va en ce moment, et vous y faites quoi, vous d'ailleurs, tous les deux, Laura et Baptiste, dans cette belle association?
Ça va très bien pour nous, merci. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Moi, je suis polyvalente, je fais plein de choses pour l'asso. Je peux préparer à manger pour les artistes, les bénévoles. Je peux faire de l'affichage d'affiches. Je ne sais pas si tu peux compléter, Baptiste.
De la déco aussi.
De la déco, oui, c'est vrai. Voilà.
Et peut-être tu contribues aussi à l'hébergement de certains artistes ou pas?
On peut, on l'a fait une fois, effectivement. Oui. Ouais.
Baptiste, toi aussi, tu es un peu polyvalent.
Un peu polyvalent, un peu sur la programmation, la production, un peu de com, un peu de tout, quoi. On touche un peu tous à tout aussi. Hein. Laura, toi, t'es aussi un peu sur la com au final, indirectement finalement. Enfin, avec les affiches et tout ça, quand on colle les affiches. Et puis, on est tous bénévoles, c'est ça qui est important aussi de signaler, c'est qu'on est une bonne équipe.
Vous voyez comme un collectif quand même, nombreuses personnes.
Oui, oui, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais. Une expérience humaine, on va dire.
Avant tout, une aventure humaine, certainement. Alors, la programmation, elle est tombée juste au moment où on parle, en fait. Vous avez gardé le secret. Il a fallu l'élaborer. Peut-être un petit peu dans la difficulté, j'imagine. C'est pas facile, forcément, de programmer une dizaine d'artistes qui sont... en tournée aussi, parce que vous ne voulez pas forcément les faire venir de l'autre bout de la planète défoncer le bilan carbone de l'assaut. Il ne faut pas qu'il soit trop cher non plus, parce que c'est une économie un peu fragile. Cette petite tambouille, elle est compliquée à réaliser année après année. Bon, apparemment, vous aimez ça, puisque c'est la cinquième fois. Mais...
Oui, 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 c'est vrai qu'on aime bien se faire mal, parce que du coup, c'est vrai que c'est un peu quand même compliqué à monter, cette programmation, mais ça s'est plutôt bien passé. Voilà, il y a eu forcément des aléas. L'idée, c'était surtout, oui, que les groupes tournent autour, qu'ils ne viennent pas juste pour notre date. De toute façon, on n'a pas les moyens de payer un groupe américain juste pour une date à Rennes. Donc voilà, ça, c'est vite réglé. Donc, on est en lien avec des tourneurs, mais on est en lien aussi avec des groupes en direct, et quand c'est le cas avec les groupes en direct, on essaie de les aider à trouver des dates autour.
On va écouter un titre de chaque artiste présent donc à Rennes les 12 et 13 juin. On n'écoutera pas des sélections de Viti et Land. Hein. J'espère que Marie et puis son comparse ne m'en tiendront pas rigueur, parce qu'on l'est DJ pour la première soirée en interplateau, et on n'écoutera pas non plus des sélections que pourraient vous proposer les petits des Pays-Bas. Mais on va écouter tous les artistes et on va commencer avec une rencontre espagnolo-italienne, italo-espagnole, ça marche mieux dans ce sens-là. Elle est italienne, il est espagnol. Un côté indus, hein, véritablement. Je vous laisse nous en parler un petit peu de ce groupe. Est-ce que ça a été le premier programmé, un des premiers ou...
Non, plutôt un des derniers. Mmh. Du coup, c'est quand on cherchait du coup un groupe peut-être pour finir plus la première soirée du festival. Moi, j'ai jamais vu Damaria en concert, mais beaucoup de gens m'ont dit que c'était incroyable. Ils sont passés 3 fois à Rennes, il me semble, déjà.
Notamment au Vieux Saint-Etienne, il me semble, il y a quelques années, et c'était fou.
Ouais, ils sont passés aussi 2 fois à l'Antipode, une fois au Jardin Moderne, donc peut-être 4 fois même. Les Rennaises et les Rennais les connaissent bien, et tout le monde s'est pris une bonne claque en les voyant en concert. Là, c'était l'occasion du fait qu'ils jouaient en Hollande le lendemain, donc ils étaient vraiment en tournée à ce moment-là, et voilà, le tourneur est Rennais, ce qui a aidé aussi, et le tourneur est en direct avec le groupe, ça joue beaucoup aussi, souvent. Donc on était très contents du coup d'avoir cette validation. Et puis c'est chouette, ils sont très contents de revenir à Rennes et au Jardin Moderne, donc c'est chouette.
Alors ça va taper un petit peu si vous n'avez jamais entendu Damaria, mais voilà, c'est l'occasion de découvrir. Je vais sans doute, avec Laura et Baptiste, utiliser des termes comme synth-pop, jungle noisy pop ou encore art-punk. N'ayez pas peur, ça ne fait pas mal, hein, c'est juste des étiquettes comme ça, parce que bon, pourquoi pas, mais vous allez entendre la musique, donc ça sera beaucoup plus simple de vous faire une idée. Est-ce que j'y vais ou pas? Bah oui, allez-y, évidemment. 12, 13 juin, Jardin Moderne, Pipe à la Pop, numéro 5, on y va avec Damaria.
have to sleep, it's just the moon that I see.
Dans l'émission Le Grand Tout, aujourd'hui, c'est une spéciale Pipe à la Pop numéro 5, les 12 et 13 juin au Jardin Moderne, proposée par Des Pichicailles. Et justement, ça tombe bien, deux des membres de l'asso, Laura et Baptiste, sont présents ici pour nous parler sans doute de cette artiste canadienne qu'on écoutait à l'instant. Mais qui est-elle, cette Dana Gavansky ?
C'est une artiste canadienne, mais qui habite à Londres et qui fait une musique assez proche de celle de Kate Lebon, qui est vraiment très chouette. Son dernier album en date, c'est Late Slap en 2024. Et elle est sortie sur des albums sur Full Time Obi aussi. Elle a été aidée par Mike Lindsay, notamment du groupe Tongue, pour la réalisation de son dernier disque. Donc ce qui fait que voilà, donc c'est vraiment de l'indie pop avec un côté folk assez introspectif. On aime beaucoup sa musique, ça jouera surtout en début de soirée, plutôt en début de soirée. On ne sait pas vraiment comment elle sera accompagnée, elle sera en groupe, mais voilà, ça annonce un bon moment.
Les groupes qu'on voit, les artistes qu'on voit jouer au festival Pipe à la Pop et puis en général dans la programmation des Pichicailles sont parfois des artistes assez confidentiels qui ont souvent les honneurs de la presse spécialisée au plan international, j'entends, et vous aimez quand même aller chercher un peu partout dans cette géographie qui est présente, et notamment aux Pays-Bas, j'ai l'impression. C'est quoi ce tropisme vers les Pays-Bas ? Laura, est-ce que tu peux nous dire pourquoi vous aimez tant les artistes qui viennent des Pays-Bas ? On va en écouter une juste dans un instant.
Je sais pas, tu vas me dire si je me trompe, Baptiste, mais je pense qu'il y a aussi une part de hasard, dans le sens où on a commencé à programmer des groupes venant de ce pays-là, et qu'au final, une espèce de réseau qui fait que voilà, on programme les autres groupes. Et donc on va pas forcément en parler tout de suite, mais voilà.
Oui, mais en tout cas là, Ebi, on va l'écouter dans un instant. Oui. Elle est venue déjà à Rennes, et même au Jardin Moderne, et même au festival Pipe à la Pop en 2024 avec un autre groupe. Il y a aussi cette fidélité. Alors peut-être c'est pour ça que moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de groupes hollandais, c'est parce que il y a quelques-uns des groupes hollandais qui ont joué, dont vous faites jouer les autres émanations régulièrement.
Tout à fait, ouais, tout à fait. Bah, là, c'est le cas de Ebi, du coup, qui joue en plus avec Michel, du coup, de Loosberg, le guitariste de Loosberg. Et donc, ils sont tous les deux, après, pour faire le DJ set Les Petits le lendemain. Donc voilà, c'est un peu Voilà, on est assez proche d'eux. Ça fait partie des artistes avec qui on envoie des mails en direct assez régulièrement. Donc toute la team Lusberg, en fait, ils reviennent. Il y a au moins un ou deux qui reviennent tous les ans en fait au Pipe à la Pop, et ils ont vraiment envie de revenir. Ils ont plein de projets différents.
Parfois au Jardin Moderne, parfois dans des petits bars ailleurs.
C'est ça.
Ça arrive aussi.
Tout à fait. Ouais.
Elle joue aussi, Ibi, dans Sacrificial Chanting Mood, dans Lusberg donc. Sans doute l'année prochaine, elle jouera avec un autre projet au festival.
Voilà, c'est ça. Après Michel, un nouveau groupe qui s'appelle Magasin aussi, avec trois autres membres. Donc oui, il y a des chances que du coup on le revoie, lui en tout cas, avec ce projet-là. Ils sont plusieurs vraiment dans cette bande de Rotterdam à avoir des projets bien, bien, bien chouettes.
On va écouter Ibi dans un instant. Avant ça, tout de même, une des particularités, et je tiens à le signaler à chaque fois que je vous reçois, des Pichikai, c'est la volonté et le soin de donner une parité vraiment, ou le tenter en tout cas, mais vous y arrivez, il me semblerait.
Oui, et ça
entre les hommes et les femmes sur scène.
Ça devient très naturel en plus.
Oui, tout à fait, ouais. On se force pas à. Voilà, c'est juste que c'est naturel et ça fait partie des groupes. En fait, on cherche surtout la sincérité parmi les groupes, quoi. Et on n'aime pas trop les groupes qui se la pètent un peu. Donc, ce qu'il y a, c'est que voilà, et puis on trouve ça important, quoi, qu'il y ait des femmes sur scène autant qu'il y ait des hommes. Donc voilà, on est content de cette programmation qui est bien mixte.
On parlera d'autres aspects et des spécificités des Pichikai tout au long de la discussion avec Laura et Baptiste. Mais là, on part donc aux Pays-Bas avec Ebi et on changera d'ambiance et de continent juste après, parce que oui, il y a quelques formations américaines qui seront présentes.
Gold. was thinking I'd walk. I see you in the mirror every time I call. I hear your voice every time I try.
J'avais cité tout à l'heure ce genre, hein, ce micro-genre peut-être, ce genre de niche, jungle noisy pop, c'est dans ce registre-là qu'officient les Américains de Good Flying Birds, qu'on écoutait à l'instant, à retrouver le 12 juin dans la programmation du Pipe à la Pop numéro 5 au Jardin Moderne. Un groupe comme celui-ci, qui fait partie de l'international indé comme ça, où est-ce qu'on va le dénicher? Un des membres, une des membres de l'assaut des Pichicailles le connaît depuis longtemps et dit « Ah, là, il faut absolument qu'on fasse jouer ce groupe ». Parfois, il y a un peu de hasard aussi, on découvre au hasard, justement, d'une page Bandcamp, hein, un groupe.
Ben, on est trois à la programmation, donc il y a Anok, Antoine et moi-même. On écoute différentes choses tous les trois à l'année et on se partage un peu les liens. On se dit « Ce groupe-là, ça serait chouette, etc. » Et après, c'est des opportunités. Là, il y avait un tourneur du coup, qui faisait tourner ce groupe-là. Et il savait que ça faisait partie de des esthétiques souvent qu'on proposait au public. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. C'est une période aussi de festival où il y a d'autres festivals en Europe. Je parlais du festival Best Kept Secret, du coup, où joue Damerea. C'est le cas aussi de Good Flying Birds. Donc là, ça fait deux groupes qui jouent sur les deux festivals. Bon, c'est pas du tout le même... même taille de festival, mais ça permet du coup d'avoir des groupes intéressants comme ça. Et ce groupe-là, vraiment, qui est assez récent, ils sont très jeunes, enfin ils sont jeunes, les musiciens et musiciennes de Good Flying Birds, et ils tournent mais énormément, là, ils font une énorme tournée aux États-Unis, ils vont faire leur première tournée en Europe là, mais je pense qu'il y en aura d'autres après. Ils ont vraiment envie du live, et ça fait plaisir, quoi, du coup, de voir ce genre de jeunes groupes qui ont envie de jouer... Et rejouer. Quoi.
Plongeons un petit peu dans l'état d'esprit aussi qui est celui des organisateurs, l'envie de proposer un festival à visage humain. Mais je me souviens l'an dernier, un des groupes qui disait que c'était le meilleur festival auquel elles avaient pu participer. Je crois que c'était les Clitons qui disaient ça. C'est un compliment qui vous était fait à vous et je pense que le public le ressent aussi. Quel est l'état d'esprit en fait, juste dans l'accueil du public et des groupes?
Ouais, c'est exactement ce qu'on veut. L'idée, c'est de pouvoir accueillir le public dans un espace qui soit pas trop grand ni trop petit. On fait attention à la jauge. Tu rectifies, Baptiste, en tout cas. Mais et c'est vrai que on a à cœur aussi d'accueillir correctement le public, que ce soit côté restauration, que ce soit aussi... Il y a un travail qui a été fait par des bénévoles de l'association où une charte a été écrite contre les violences sexistes et sexuelles, et donc c'est aussi important pour nous. Des bénévoles circulent sur le site aussi, sont prêts à intervenir si nécessaire. Voilà, on a effectivement... C'est notre état d'esprit, c'est accueillir le mieux que possible.
Ce qui est tout à fait un bon état d'esprit, hein, moi, je trouve. Bravo, merci de le faire en tout cas. La programmation, elle se balade entre artistes internationaux et puis artistes français. Il n'y en a pas beaucoup cette année. C'est, la moisson était moins bonne ces derniers temps.
Plus que l'an dernier, hein. L'an dernier, il n'y avait aucun.
C'est vrai, donc c'est avec un peu de chance qu'on voit revenir à Rennes Camille Chambon et son projet Karaokeïque, un projet qui a pris pas mal de changements depuis le début en fait. Hein.
Tout à fait, c'est un projet qui date pas d'aujourd'hui. Hein. Le premier album était sorti en 2010 sur Clapping Music, donc Karaoke, qui est un projet de Lyon, donc Camille Chambon. Aujourd'hui, donc elle a un nouveau disque qui va sortir tout bientôt. Alors je sais pas s'il va sortir d'ici le festival ou après, mais tout cas,
on entendra de nouveaux morceaux.
Moi j'ai eu la chance de l'écouter et puis de la voir en live aussi avec donc avec son nouveau groupe, donc c'est qui composé de Charles et François Viro, hein, qu'on connaît bien, François, donc des membres de Clara Clara. Donc des super musiciens, donc ça groove un max, comme disent les jeunes.
Bah, les jeunes disent ça, ouais, j'ai souvent entendu des jeunes dire ça.
Et je les ai vus en concert, du coup c'était Capital Taboulet qu'ils avaient fait jouer au Babazoula, une super soirée. Et donc ce sera un super concert du vendredi 12 juin au Jardin Moderne.
On écoute Karaoke, qui on parle toujours de People à la Pop avec Laura et Baptiste. And I say why don't you try to be right. We listen to the sound of the storm, and soon the rain will fall down on the dried up land and the ground, and all now battered souls. And I say, le délicieux Summertime par Karaoke qui sera en concert vendredi soir au Jardin Moderne dans le cadre du festival Pipe à la Pop numéro 5. Nous y serons d'ailleurs de 17h à 18h vendredi pour une première émission avec Isa et Marc d'Alter Info, et puis la deuxième samedi aura lieu quant à elle de 17h à 19h, toujours en direct du Jardin Moderne. J'en profite pour vous donner le programme des siestes musicales réalisées par certaines artistes invités. Le 6 juin, c'était samedi, vous avez pu entendre la sieste de Nana Gavansky. Dimanche, celle d'Eraser. Et puis aujourd'hui, 8 juin, vous entendez celle de Ebi. Ce sera poursuivi bien mardi par celle du groupe Bound by Endogamy. Mercredi, ce sera Karaoke. Jeudi, ce sera Brenda. Vendredi, vous entendrez celle de Billy Fuller. Et samedi, celle des Autrichiens de Paloma 004. On se donne rendez-vous à mardi pour, d'une part, la suite de ces infos-concerts avec Laura et Baptiste. Et puis d'autres choses encore. Évidemment, toutes les informations sur canalb.fr. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao! Summertime, summertime, summertime.